que cet homme s'ennuie beaucoup avec lui-même.
Chaque soir.
Alors je vais chanter une chanson que je vais chanter pour l'instant.
Chez nous.
Qu'à ma copine.
C'est chez vous.
C'est concertant.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter. La différence.
Et tout de suite là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet.
Je vous téléphone parce que je viens d'entendre sur la radio nationale votre tombereau d'ordures et j'en suis absolument stupéfait. Vous vous livrez à un véritable dévoiement de la démocratie. Nicolas Sarkozy est le chef d'État élu, il est ce qu'il est, hein, élu par le peuple. Vous êtes la honte de la nation et de la démocratie. Qu'aurez-vous à dire si, comme c'est probable, M. Hollande est le chef de l'État dans une année? En tout cas, ne comptez pas sur moi pour déverser sur celui qui sera le patron de mon pays le tombereau d'ordures que vous suscitez sur votre antenne. Je suis désolé, mais franchement, je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que je vous méprise. Signé Jean Cauchy, docteur vétérinaire. Bye.
Ah, le pavé dans la mare, on se régale ce matin. Pape Andréou va organiser un référendum en Grèce pour savoir si oui ou non le peuple grec est d'accord avec l'accord économique qui a été passé avec tous ces voyous. Alors évidemment, la finance tremble parce que finance et démocratie, ça n'a jamais fait bonne entente. C'est antinomique, bien sûr. Mais là où il est excellent, le pape Andréou, c'est qu'il va mettre le peuple grec face à ses responsabilités. Qu'il soit d'accord ou qu'il soit pas d'accord avec le plan, lui ne sera pas responsable. Si le peuple vote non, c'est la liberté du peuple grec. La dette, les financiers s'assoient dessus, c'est zéro remboursement et bim à la libertad. Ça, je trouve ça génial. On parie qu'il n'y aura pas de référendum. Le poids des financiers va être tellement important qu'il va être obligé de reculer, Pape Andréou. Et fait l'annonce. Allez, c'était Didier de Gaillac. Salut à tous.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe, c'est Michel. En Lorraine, je m'apprête à prendre le train pour aller à Nice avec tout le monde un peu contester toute cette oligarchie financière en pouvoir et dire un peu ce qu'on a à dire à nos pouvoirs. Et juste avant, je voulais aussi signaler, j'avais entendu une intervention dans les messages il y a quelques jours sur les biocarburants qui disait qu'il fallait cramer de l'ordre de 350 kg de céréales pour faire un plein de 4x4 avec des biocarburants et que ça représentait un mois d'alimentation dans les pays pauvres. Je tenais juste à corriger que c'est pas un mois d'alimentation, mais une année d'alimentation. Avec 300 kg de céréales, en général, on va dire, si on mange pas beaucoup de viande, on peut se nourrir pendant une année. Donc on remplit un plein avec l'équivalent d'une année d'alimentation. C'est dramatique. L'Europe subventionne ça, les États-Unis subventionnent ça. On peut que dire bravo et aller lutter à Nice et ailleurs et partout pour qu'on arrête un peu les bêtises. Merci Daniel, allez, et continuez. Ciao.
Au secours, j'étouffe. Des milliers de flics, des milliers de gendarmes, des milliers de CRS, des milliers de militaires, des voitures banalisées, l'infiltration, les hélicos. Non, ce n'est pas la parano, c'est le G20. Qu'ont-ils donc à se reprocher? Pendant que le bricoleur faisait un amateur des bombes atomiques, est-ce qu'on a encore le droit de chanter ça aujourd'hui? Ben, c'est Alain, un aborigène du coin. Allez, au revoir.
AMG de Strasbourg et alentour, bonjour. Le repère de Strasbourg se tiendra le samedi 5 novembre à partir de 15h au bar La Perestroïka, situé 2 rue du Tiergarten, près de la gare. À tantôt.
Allô, Daniel Mermet, bonjour. Eh ben, je suis Colette du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine. J'avais complètement oublié de préciser que j'étais à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. J'ai eu presque 45 messages. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. Tous ces messages m'ont fait chaud au cœur et je remercie tous ceux qui m'ont téléphoné. Merci. Au revoir.
Merci, Colette. Merci à ceux qui ont appelé Colette et qui continuent de l'appeler. Aujourd'hui, une balade en Inde, Bénarès. Ça vous dit quelque chose quand même, Bénarès, Varanasi, dit-on, dans cette région du monde. Hier, on s'est baladé en Bretagne, on a fait un retour en arrière avec Zoé Varier, avec ces dames qui évoquaient leur vie de femmes de marins et de femmes militantes aussi. Et aujourd'hui, Fête des morts oblige, on va à Benares, Varanasi, où la mort a une place très particulière. On le sait, Varanasi, c'est le lieu de la mort délivrée. On va évoquer, c'était en 1995 ce reportage, on l'a reconstruit avec l'équipe actuelle, ça date de 1995. Et on va évoquer un photographe, le photographe des morts. Les morts sont photographiés avant la crémation, c'est ainsi, à Varanasi. Et je me suis fait photographier par ce photographe, moi qui suis tout ce qu'il y a de vivant à l'heure qu'il est. Mais je ne suis pas allé chercher la photo. Donc, j'espère qu'il l'a gardé depuis 17 ans, ce photographe de Varanasi, Benares. Il existe toujours, si vous passez par là. Demandez-lui s'il n'a pas la photo d'un reporter de France Inter, de là-bas, si j'y suis, qui est passé ce printemps-là. Ça me ferait plaisir. Voilà, c'est notre balade d'aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale. Au 01 56 40 37 37.
Alors moi, s'il y a un truc que je supporte pas, en fait, c'est qu'on diabolise l'essence du socialisme ou du communisme, si vous voulez. Je parle pas des partis, là, je parle de qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'enjeu. Et alors, d'un côté, on nous dit que, eh bien voilà, quand il y a la crise, il faut réduire les dépenses publiques. Alors, parce que ça, c'est des trucs de luxe, vous savez. Bon, financer des écoles, des hôpitaux, enfin des choses dont tout le monde a besoin en fait. Ah mais ça c'est du luxe, ça c'est pour quand tout ira bien. Mais en temps ordinaire, ce qu'il faut c'est que d'abord la finance aille bien, les banques, les grosses entreprises, et puis c'est ça qui va sauver le pays. Moi je crois pas du tout ça, mais voilà, c'est ça que je voudrais dire au leader de gauche. J'y crois pas du tout à ça. Je vois pas pourquoi il serait plus légitime de se livrer à des dépenses privées pharaoniques, c'est-à-dire avoir des villas partout, des machins, des palaces. Alors ça c'est bien parce que ça voudrait dire que l'économie elle tourne. Quand il y a des gens qui sont au pouvoir comme ça et puis qui peuvent se payer du luxe, ça veut dire qu'on est dans la civilisation, qu'on progresse. Non, non, pour moi c'est pas ça du tout, hein, la civilisation. La civilisation c'est réduire les dépenses privées pour augmenter les dépenses publiques, c'est-à-dire augmenter le bien commun, ce qui va profiter à tout le monde. Putain, et puis il n'y a pas un mec de gauche même qui est capable de dire ça. Mais c'est pas du gaspillage, les dépenses publiques. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à se foutre dans la tête, quoi.
Salut Mermet, salut toute l'équipe de là-bas si j'y suis. C'est Christine de Nîmes. Mercredi 2 novembre, notre rendez-vous mensuel du repère de la Basse J'y suis, à 19h30, au Café des Ramblas, boulevard Gambetta, ça c'est comme d'habitude. Ensuite, jeudi 17 novembre, à 20h30, au Sémaphore, notre cinéma d'art et d'essai, projection du film d'Olivier Hazan, Grand Puits et Petite Victoire. Ensuite, un débat en présence d'Olivier. Ce film est distribué par les Mutins de Pangée. Il renoue avec l'histoire populaire française, nous replonge au cœur du conflit qui a mobilisé des millions de Français opposés à la réforme des retraites. Il met en perspective la lutte en faisant des liens avec l'histoire sociale. Un débat qui promet d'être passionnant et passionné.
Bonjour Daniel et puis bonjour à tous les auditeurs modestes et géniaux. Je voulais squatter un peu ton répondeur pour signaler à tout le monde le documentaire qui s'appelle Squat. Squat, la ville est à nous. Documentaire de Christophe Coelho, je crois, qui avait déjà participé à Vorem, Vorem Foot al País et puis d'autres choses, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, je sais que leur documentaire sort début novembre, là. J'ai eu la chance, moi, de le voir cet été. Et voilà, c'est réjouissant, c'est rafraîchissant. Ça parle du squat bien au-delà du simple fait d'occuper des immeubles vides dans les villes. Ça va bien plus loin que ça, c'est très malin, c'est super. En tout cas, voilà, allez-y tous, ça fait du bien aux neurones.
autour de nous, il y a tous ces temples magnifiques qui montent vers le ciel avec ces guirlandes d'or, ces fanions. Et les vaches là qui sont paisiblement affalées. Les trois petits mômes. Hey, bonjour, comment tu t'appelles?
Sabita.
Sabita? Et toi?
Rekha.
Qu'est-ce qui se passe en bas? Raconte-moi.
Ah, il dit qu'on brûle le monde.
Et tu n'as pas peur? Ça te fait pas peur?
Non.
Et pourquoi tu es maquillée? Toi, tu as fait tes yeux, c'est très beau et tu as de la couleur. Tu as du rouge sur les mains et elle a de l'orange sur les mains. Et puis ici, elle a des giclures.
C'est la fête de Holi.
Alors, on se balance des couleurs comme ça. Juste en dessous, toc, sur un bûcher, on est en train d'apporter un corps dans ces tissus d'or, rouge et rouge et or. Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varier. Là-bas, si j'y suis, quelques Indes.
Flight number 2, arriving from New York.
Qu'est-ce que vous avez vu, les enfants?
Hamlog, bahut sare haddi mahsoos dekhe. Wo haddi dikha rahe the.
Haddi. Je montre l'os que le chien mange.
Il y a un chien qui est en train de manger les os et la chair d'un cadavre. Où ça?
Juste à côté de nous, tout près de nous. Regardez en bas.
Qu'est-ce qu'il mange, ce chien? Il est en train de manger les os d'un mort. Et je crois que c'est... Oh. Apparemment, il mange un bout de colonne vertébrale.
Quitter Calcutta. Quitter Calcutta. Pas prêt d'oublier ce pourrissement, ce cadavre. Pas exquis. Tellement grouillant, tellement d'existence. Si violente, si cruelle, si agrippée, qu'on sait qu'on reviendra. Cadavre attachant. Comme les yeux du bébé mort dans les bras de la mendiante sans main. Image forte? Non, ça existe. Au pays des images, les mendiants en Inde font des images plus fortes que les maharajas. Quelques étrons, plus tard, quelques molars sanglants, une vache, un sikh en turban rose, quelques sadous safran, un pneu de camion sur une tête, 10 sacs de thé, des bataillons de porteurs en loques orange et turban, 5 valises sur la tête, des centaines de corps dans la gare de Calcutta, endormis comme morts par terre, par grappes, blottis, serrés dans des sphères de poussière. Goodbye, have a good journey. On va prendre le train. Prendre, littéralement, comme on fait en Inde à l'assaut. On monte dedans, on monte dessus. Si vous souffrez dans cette vie, tant mieux. La prochaine sera vachement mieux. Votre vie est un enfer. La prochaine sera un coup. On ne peut pas vous dire ça. Ça dépend de Dieu et de votre bonne conduite. Mais encore un effort, encore quelques vies et puis fini, fondu, heureux, bien heureux, nirvana. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on va mourir. La mort dans l'Inde, Ganga, la Gange, Bénarès. Le train suit une nuit de suie, chaos industriel, usines, cheminées en loques soviétiques, entrepôts géantes, l'Inde, ponts retentissants, gares qui grelottent et s'envolent, Calcutta, Chandernagore, Bodh Gaya, Bénarès. Au bout de ce train de nuit, dans la courbe que fait la fleuve sacrée, en forme du croissant de lune qui orne la chevelure de Shiva, à Bénarès, Varanasi. C'est là qu'on va, la ville sacrée de l'Inde, comme on dit dans les documentaires depuis qu'on est petit. Mille fois raconté le voyage en train, en Inde, on se dort dessus, parfum, épices, les sueurs sont mises en commun, sac, fourrage, mal, un pan, des casseroles, des chèvres, des fusils, un yogi défoncé, quelques lépreux, quelques fonctionnaires, hautains, quelques charlatans fameux, quelques bandits. Et puis, dans tout ça, dans ce tout ça, debout contre la porte de chiottes, un brancard de bambou vert avec, ficelé, dans son linceul enveloppé, un mort. En Inde, les morts prennent le train, l'avion, l'autocar ou le toit de la voiture. Des jours de voyage, un peu de parfum, un peu d'encens. Et puis, la famille est là, autour. Ainsi va la mort, comme nous, avec nous, à Bénarès. Ville de la mort, ville de la délivrance, ville de la mort délivrée. Imaginez, regardez, vous êtes mort. Oui, vous êtes mort. Vous êtes peinard, bien étendu, enveloppé dans votre linceul, sur votre brancard de bambou, porté sur les épaules de vos descendants ou des dômes. Les dômes sont les intouchables qui s'occupent des morts. Vous descendez du train et vous devez d'abord traverser la ville, les motos, les vélos, les rickshaws, le bazar, les couleurs, la poussière, les divinités, les tas de bouses de vaches séchées, les femmes musulmanes à l'arrière de la mob sous un voile noir intégral. Là, une vache avachique, une vieille dame bénie, patte de santal entre les cornes. Et, dans cette foire, vous n'êtes pas le seul mort qui vogue ainsi sur la foule. 150, 200 chaque jour et nuit viennent pour être brûlés au bord du fleuve sacré. Et ce, depuis la nuit des temps de cette religion, 2-3 millénaires, au bord de ce fleuve qui délivre. Ici, souffle l'esprit à travers ce bazar, dans cette prodigieuse kermesse, d'autant plus qu'en ce moment, c'est Holi. Holi, c'est la fête de la couleur. On vend des couleurs en poudre partout et des chapeaux de papier scintillant. Pour reposer vos porteurs, vous allez sur cette charrette qui hoquette avec cet âne malheureux qui vous tire vers le fleuve, vers le miracle de l'eau. Dans cet enchevêtrement hirsute. Mais, avant d'arriver au fleuve, peut-être, comme certains voyageurs, aurez-vous envie de laisser une trace.
C'est drôle parce qu'on est à Bénarès, c'est un tout petit studio de photographe
Alors derrière moi, il y a un décor. Il y a des toiles peintes qui représentent des jardins, des décors différents. Il y a des colonnes à gauche et à droite. Les murs sont peints en rose. Il y a un néon là-bas au bout. Il y a des gamelles, des projecteurs. Et puis en face de moi, il y a le photographe. Il a une tête de mort, ce type, absolument sinistre, quoi. C'est vraiment la mort, comme dans les histoires. Il est très, très gentil. Il accepte de nous parler de son métier de photographe et de photographe des morts. C'est-à-dire qu'à Bénarès, avant la crémation, on a pour coutume de faire photographier le défunt.
Premchand Bhagat.
Je m'appelle Premchand Bhagat.
Et alors, vous faites les photos des défunts. Alors comment ça se passe? Racontez-nous comment ça se passe.
Kaise hota hai un log ko bataiye zara.
Ghar mein jo gaye uska mare mane marne ke baad uska jo rehta hai guardian. Wo log bulata hai yahan dukaan par aake.
Celui qui est décédé, sa famille nous appelle et j'y vais.
Mais est-ce qu'on le on lui fait un beau visage, on le peint
au ghi, desi ghi. Ye sab laga ke usko pani se nahalata hai.
Oui, le visage est décoré et après je prends la photo.
Et alors on fait des photos dans la maison?
Bah oui, moi quand qu'en
la rue. Dans la maison et à l'extérieur aussi.
Ah, dans la rue.
La somme oui.
Parfois on prend la photo de procession.
Et alors, c'est des photos en noir et blanc ou en couleur? Qu'est-ce que les familles préfèrent en général?
Couleur.
En couleur, toujours.
Ah, parce que c'est plus vivant, la couleur? Mais ça ne vous rend pas un peu triste de faire un métier pareil, des fois? C'est pas un peu triste?
Il y a tout business.
C'est mon métier. Je gagne l'argent. Hein.
Et vous, à votre mort, qui est-ce qui vous prendra en photo? Vous avez un collègue? Vous avez des enfants?
Mon fils.
Bon, allez-y, vous faites ma photo, là. Voilà. Je me suis mis avec mon casque de reporter, mon micro de reporter, mon magnétophone de reporter, les projecteurs, branche. Ouf! Est-ce que vous me faites jusque-là ou juste le haut? Ça va la coiffure? Les photos sont prêtes dans 2 jours. C'est fait?
C'est fait.
Voilà, ben voilà photographié. À Bénarès, au lever du jour, il y a beaucoup plus de différence entre la nuit et le jour qu'entre le profane et le sacré. Malgré tout ce qu'on vous a dit, malgré tout ce que vous avez déjà vu, rien n'est plus serein qu'une balade en barque au lever du jour dans cette ville, dans le pas encore, avant le tumulte et avant la poussière. Balade sur le Gange, Ganga, la Gange, c'est-à-dire le ciel sur la terre. Se baigner dans le Gange, c'est se baigner dans le ciel au moment où il commence, c'est-à-dire au point du jour. Le ciel est descendu ici-bas grâce à Shiva pour féconder la terre. On n'est pas très étonné de ça, que ce soit considéré comme un miracle dans des endroits, c'est naturel et surnaturel à la fois, dans des endroits bien sûr où on redoute la sécheresse. Mais le ciel est tombé sur la terre sous la forme du Gange, grâce à Shiva et grâce à la mèche de Shiva, aussi pour purifier les hommes et féconder leur vie et leur mort, et permettre aussi à pas mal de charlatans d'abuser de la crédulité des dévots. Mais c'est pareil partout, dans tous les lieux de culte de notre monde, et depuis que notre monde est monde, il y a les dévots et les charlatans, sans qu'on puisse faire la différence entre le profane et le sacré, alors qu'on peut faire tout à fait la différence entre la nuit et le jour, et c'est à ce miracle qu'on est en train d'assister. Thank you. Et le premier geste, c'est le plus antique et le plus beau, consiste à poser sur l'eau un petit radeau de feuilles, un minuscule radeau de feuilles séchées avec une bougie minuscule d'huile et une lumière qui part comme ça sur le Gange jusqu'à ce que la lumière rejoigne à l'infini l'eau. Au Gange, j'ai reçu sur tes berges l'essence de la suprême béatitude. Les larmes me viennent aux yeux à la seule pensée de quitter ta rive. Pardonne-moi si je dois partir. Ô mer, dans ce poème, on appelle le Gange la mer. J'ai touché ton eau et tes vagues m'ont purifié au Gange. Je te prie les mains jointes, Gange vertueuse, j'espère revenir un jour sur tes berges. J'ai reçu sur tes rives l'essence de la suprême béatitude. Il est futile de se livrer aux dévotions, expiations et méditations. Alors qu'un seul bain dans ton eau purifie la vie entière. Gange, ne m'oublie pas après ma mort.
Voilà, vous voyez des tas de bois.
Des tas de bois.
Voilà, vous voyez la fumée.
Ah oui, c'est là, sur ce bord, il y a un homme avec un bambou assez long. Il est en train de retourner quelque chose qui est dans les flammes, un corps. Juste à côté, en contrebas, une vache qui regarde tout à fait indifférente. Autour, on va, on vient, absolument. C'est une scène tout à fait banale, on dirait. Voilà. Crémation, on sait, tout le monde sait, depuis des siècles, quel est le rituel de la mort en Inde. Et là, on est venu avec notre bateau face au ghat, c'est-à-dire face au quai de Manikarnika, qui est le ghat où, jour et nuit, le feu est entretenu sous les bûchers, où, de jour comme de nuit, on brûle les corps. 150, 200, 250 corps sont brûlés ainsi, et libérant l'âme qui ensuite ira rejoindre peut-être le Dieu, ou se trouvera à nouveau prisonnière d'un corps dans une autre vie. C'est à ce rituel funéraire qu'on a voulu assister depuis cet endroit. Les images, vous le savez, sont interdites, évidemment, interdites de photos, interdites de filmer, et on le comprend, c'est rituel, mais pas interdit d'observer, de regarder, avec notre amie Vanita, qui est une habitante de Benares. Alors, sur les marches qui descendent sur le fleuve, un brancard de bambou incliné, posé sur les marches, et sur le brancard, enveloppé d'un tissu blanc, il y a un corps qui attend, un peu plus haut, un autre, recouvert de tissu orange et très doré, très brillant. Des hommes autour, des personnes disposées sur les marches. Il y a deux corps qui attendent là.
Oui, il y a un qu'on a déjà plongé dans la gorge. Vous voyez l'eau qui sort. Et l'autre, on ne l'a pas encore plongé dans la gorge. Et puis il y a des tas de cendres aussi. Parce que ce sont les cendres des morts qu'on a amassées comme ça.
Ce tas de cendres là, c'est des cendres des morts. Là-bas, là, il y a un autre bûcher, c'est pareil. C'est un mort qu'on est en train de...
Qu'on est en train de brûler. Et le moment, quand le corps se brûle, on fait kapal kriya. C'est la personne qui l'a brûlé, qui a mis le feu au bûcher. Cette personne-là va craquer, ou abîmer, vous pouvez dire, le crâne du mort.
Il va, c'est ce qu'il est en train de faire là, sous nos yeux. Voilà, ce qui reste du corps est au bout de son bambou. Il va fracasser le crâne.
Le crâne. Sans cela, la cérémonie ne serait pas complète.
Et kapal kriya, parce que l'âme est à l'intérieur du crâne.
Ah oui, c'est ça.
Et il faut, pour qu'elle puisse sortir, que le crâne soit cassé, ouvert. C'est pour libérer l'âme qui est dans le crâne. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, ce temple, ces tas de bois, de brindilles, de bûches plus ou moins importantes, la suie, la cendre qui peut recouvrir tout ce décor, ce paysage, ce gâte, c'est des cendres, des bois et des cendres des morts. Ah, là, on amène un autre corps, voilà, en démarche, les hommes portent un corps recouvert de tissus dorés, de fleurs oranges. Voilà, on plonge le corps sur le brancard dans le Gange, et maintenant on le remonte.
On remonte et voilà, on le pose là.
On le pose là au soleil.
Au soleil. Et maintenant on part, vous voyez, on part pour acheter le bois et tout ça.
Ce qui est très touchant, c'est les oiseaux, les moineaux qui se posent sur ces corps, sur ces morts d'or, sur les morts d'or. Vraiment, c'est ça, parce que c'est une traîne, un linceul doré de tissu d'or, comme ça, qui brille au soleil. Voilà, on en remène un autre.
Remarquez, la personne a la tête rasée. C'est lui qui va occuper de toute la cérémonie maintenant. C'est lui qui va mettre le feu.
Le garçon est en train d'enlever ses vêtements, il est torse nu. On jette les fleurs oranges sur le Gange, guirlande de fleurs comme ça qui flotte doucement près d'un chien qui cherche dans l'eau. Voilà, maintenant on amène ce corps recouvert de fleurs d'or dans ce linceul orange. On l'emmène sur un bûcher.
Le corps, dans la religion hindoue, est un vêtement qu'on quitte et qu'on vient brûler au bord du Gange. Et tout ça se passe dans une sorte de détachement, une sorte de sérénité, comme ça, vu d'où nous sommes, à quelques mètres du bord de la rive, dans notre bateau. Mais, en fait, évidemment, la douleur des hommes est partout la même, quel que soit le rituel funéraire qu'on ait pu imaginer. On peut imaginer que le corps est un vêtement et que l'âme s'envole, mais la peine des hommes dans leur... quand un autre homme les quitte, quand un homme meurt, et partout, sur toute la planète, la même, simplement, la façon dont les choses s'expriment, dont ça, le ça, s'exprime, n'est pas tout à fait la même. Mais le fond, évidemment, est commun.
Les femmes de la famille ne viennent jamais avec le corps.
Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune femme, aucune femme.
Aucune femme. Les femmes restent dans la maison et dès qu'on enlève la mort de la maison, elles commencent à nettoyer, laver la maison et on jette les vêtements du défunt dehors. Mmh. On prend un pot en terre, plein d'eau.
Pot de terre, plein d'eau.
Plein d'eau et on le jette dehors afin qu'il s'abîme.
Ah, pour le casser dehors.
Pour le casser dehors. Oh. Ça représente qu'une personne est partie de cette maison et pour cette personne-là, il ne faut pas revenir.
Ah.
Voilà un autre qui arrive.
C'est ça, le feu ne s'arrête jamais.
Ne s'arrête jamais. On emmène même pendant la nuit. On emporte même le corps pendant la nuit aussi, 1 heure ou 2 heures du matin.
Voilà, sur les marches, il y a ces hommes, uniquement des hommes, qui regardent la barque partir et s'éloignent sur le Gange maintenant, ce bateau, avec 7-8 hommes à bord. Au bout du bateau, au bout de la barque, il y a le corps qui est posé et qui est dans ces tissus d'or, tissus dorés et de fleurs. Ça brille au soleil sur le Gange. Et le corps a été lesté de pierre parce que c'est un malade.
C'est un malade.
Donc on ne le brûle pas.
On ne le brûle pas et on le plonge dans le Gange.
C'est extraordinaire, cette barque qui s'éloigne seule, qui est à peu près au milieu du fleuve maintenant. Les hommes se lèvent dans la barque et voilà, jettent le corps dans le fleuve. J'aperçois très loin sur l'autre rive une seule chose vivante, c'est un chien. Et le corps a coulé à pic au milieu du fleuve. Et doucement, sans autre forme de rituel, le bateau revient sur le bord.
Ainsi, le Gange, le fleuve sacré, la mer, et la mer, la maman, est un fabuleux cimetière. Et en aval de Bénarès, ces corps qui sont lestés finissent par remonter et on voit au ras de l'eau des vautours, d'immenses vautours qui font le travail que le feu n'a pas fait.
Il y a un des cadavres qui est enroulé d'un tissu rouge, carmin, comme ça. C'est une femme ?
C'est une femme, et peut-être c'est une femme très jeune. Et pour les hommes, c'est toujours blanc.
Alors, sur les marches en bas, près de l'eau, il y a un corps qui commence à brûler.
Oui.
Là, on prépare un bûcher. Gros bois, petit bois, tas de bois. Là, le bûcher est prêt, au bord du fleuve, et on amène le brancard avec le défunt dans ses voiles et ses tissus orange et doré. Le corps lui-même est enveloppé dans un tissu blanc. Voilà, là, les hommes ont enlevé les...
On a enlevé tout.
Et on dispose le corps sur le bûcher.
Avant de brûler un corps, il faut payer de l'argent. Sinon, vous ne pouvez pas le brûler. Il faut payer l'argent à l'homme, l'impôt, c'est l'impôt, la taxe de Shamshan.
Le fils qui s'est rasé le crâne, qui s'est baigné dans le Gange, vient maintenant avec son vêtement spécial qu'il a revêtu, un vêtement sans couture. Il apporte des branches qui sont enflammées. Il fait le tour plusieurs fois, le tour du bûcher sur lequel se trouve le corps. Et voilà. Mais le feu, c'est quand même le moment solennel, quoi. C'est le grand moment. Voilà. Voilà, le bûcher est allumé. On pose des branches, du bois, sur le corps. Alors inexorable, irrémédiable, et quand même assez terrible les images. À quelques mètres, un bûcher qui flambe du bois au-dessus et au-dessous du corps, et maintenant le linceul qui entoure le corps a brûlé. Et c'est les pieds que nous voyons, c'est les pieds du mort qui sont atteints par les flammes.
Vous voyez, comme ça, nous apprenons à vivre avec la mort. D'accord. On n'a pas peur de la mort. Comme
nous.
Comme.
Comme les Français, par exemple, que vous connaissez.
Oui, c'est ça. Pour nous, vraiment, c'est une chose naturelle qui se passe tous les jours.
Alors, on nous laisse approcher de ces bûchers. On laisse approcher qui a envie de s'approcher. Même nous qui sommes impurs, les blancs sont impurs. Même toutes les castes peuvent venir là, à commencer évidemment par ceux qui font les dômes qui font ce travail. Il y a une sorte d'égalité face à la mort en Inde. Alors, vous pouvez nous suivre ou ne pas nous suivre, chacun sa sensibilité. On est attiré par ces scènes. Alors on descend vers le Gange, on descend vers le champ de crémation. Voilà, et actuellement il y a des corps brûle, évidemment, c'est très très impressionnant si on regarde certaines parties, parce qu'il y a les visages par exemple qui brûlent en dernier. On commence par les pieds, c'est les pieds qui brûlent et progressivement ça va vers la tête, ça va des pieds à la tête comme ça. Et est-ce que les morts se font brûler avec leurs bijoux, avec les choses qui sont en or ou qui sont précieuses?
Ça, ça vient de la terre. Ça va être morning time. You clean this place. I collect in the powder and wood powder and bone powder with basket. You wash fine the Ganga. Oui. Then he take five silver and the gold.
On n'enlève pas les bijoux du mort. On les laisse brûler. Et le matin, on y arrive. Il y a des dômes qui arrivent et qui nettoient la place.
Qui jettent, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes les cendres qui sont là au petit matin,
oui,
et qu'ils les mettent en tas là-bas, près
du Gange,
au bord du fleuve.
Oui.
Et à ce moment-là, il y a un dôme, ouais, qui, avec un panier,
ouais,
va tamiser, va passer dans son panier, ouais, toutes ses cendres pour récupérer,
chercher, ouais,
les choses précieuses, les bijoux, les dents en or, etc. Mais les choses qui sont récupérées là-bas dans le panier, ça va où ?
Matlab big boss, hein ?
Ah.
Où est Raktaï ?
Le ramasseur, il récupère les bijoux roulés et après, il les donne au patron.
Et le patron, il en fait quoi ? Qu'est-ce qu'il en fait, le patron ?
Le patron, il les vend au marché et il gagne.
Il y a un marché pour les bijoux et l'or provenant des cadavres brûlés au bord du Gange.
Ouais.
On peut acheter ça ici.
Voilà, alors on est reçu pour finir par le roi des morts, par le roi des dômes, c'est-à-dire des intouchables, ceux qui font la crémation, par le roi de Bénarès. On va dans les ruelles étroites, on frappe à la porte, on entre, et sur cette terrasse extraordinaire avec deux tigres éclairés qui dominent toute la ville, nous on est reçus par le roi des morts.
Vous avez vraiment une très très belle maison, hein, au-dessus du Gange, comme ça, c'est une des plus belles maisons du monde, peut-être.
Pustanique. Bab dada aja puraya.
Ça, c'est depuis des générations.
Mais vous, vous êtes un peu le roi de Bénarès.
Je suis le roi de Hindustan, c'est-à-dire de l'Inde.
Le roi de l'Inde ?
Ouais.
C'est beaucoup, ça.
Hindustan, mais quand il y a quelqu'un qui meurt, on a 5 pesos.
N'importe où, une personne, si elle est morte en Inde, elle nous paye.
Allez, d'accord ? Allez, il y a une puja mat karare.
Le roi de l'Hindoustan engueule ses enfants. Vous êtes le roi des morts.
Oui, d'abord la personne doit mourir. Après, elle va me payer. Si elle ne meurt pas, elle ne me paye pas.
Sita, écoute, juste une minute.
Comment ?
Il veut bien parler, mais si on paye.
Ah, il veut parler si on paye. Qu'ils viennent discuter. Monsieur le roi des morts, il faut combien d'argent pour parler avec vous ? Il vous faut combien d'argent à vous ?
Je m'en fous de l'argent. Ah bon ? C'est pas moi, c'est eux.
Et pourquoi veulent. Eux ? Mais qui c'est eux ?
Ah, ce sont des servants.
Ce sont des ?
Servants.
Mais attendez, mais nous, on ne parle pas avec eux.
C'est notre habitude. On m'en dit tout le temps, donc oui, ça vient de ça.
Difficile négociation avec le roi des morts qui nous demande moins d'argent qu'à d'autres journalistes et qu'à d'autres équipes de télévision. Alors on est un petit peu humilié, mais finalement c'est un jeu, enfin c'est l'humour noir du roi de la mort. On n'en attendait pas moins.
Mais combien ça me coûtera par exemple à moi?
अरे जितना लकड़ी का मिलेगा लकड़ी का जो देना होगा नौकर को देना होगा हमें देना होगा बस
il faut payer trois fois d'abord acheter les bois.
Combien pour le bois? Combien ça va me coûter pour moi?
Je veux qu'il me regarde, il me jauge, je fais 80 kilos.
Alors pour जाएगा आपको 60 रुपया मैंने 5 मन का जोड़ लीजिए
300 रुपया 300 रुपया
300 रुपया de bois ensuite.
वो तो आपके ऊपर है आप उसको मेहनत देख के जितना दे दीजिए.
Après, il faut payer les servants qui travaillent là.
Combien ?
5-7 atmis jalata hai.
Ah.
Oh, 5-7 atmis 3 ghanta mein jalega.
Ah. Il y a cette personne qui travaille qui s'occupe d'un boucher, d'un mort. Il faut payer à cette personne.
Combien par personne ?
Il faut payer 50 roupies.
Alors 350, 650. J'en suis à 650 avec le bois et les servants autour de mon corps, ça fait déjà 650 roupies. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à payer ?
25 roupies.
À qui ?
À lui.
À vous ? C'est tout ?
Bas.
25 roupies de taxes et c'est tout. Donc ça fait 675 roupies.
Oui, c'est ça.
Oh, c'est pas très cher, plus le brancard, plus les tissus, plus les fleurs, plus éventuellement les musiciens. Mais, hé, je serai le premier blanc. Ce sera un succès dans la presse, non? Et on pourrait se faire de l'argent.
Pourquoi vous parlez comme ça?
On vient de très loin pour mourir à Benares. On a vu comment les corps étaient transportés par des tas de moyens sur la galerie de la voiture, dans l'autocar, à pied, dans le train, en avion même. Mais on vient aussi de son vivant. On vient aussi de son vivant attendre la mort sur les bords du fleuve sacré. On a une chance comme ça, supplémentaire, d'en finir avec le cycle des réincarnations et peut-être de se retrouver après la mort dans le grand tout. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent finir leur parcours sur cette terre, si dans cette glèbe où nous sommes tous, où vous êtes tous, vous qui m'entendez. Alors il y a des maisons au-dessus de ce gâte où nous sommes, c'est-à-dire dans les fumées qui montent, il y a des maisons avec des balcons assez étranges où des gens très vieux attendent la mort. Il y a d'autres maisons dans la ville de Benares, mais là c'est particulièrement bouleversant parce que ces personnes sont en permanence dans cette fumée qui nous choque évidemment, qui nous trouble, mais qui est pour eux une odeur de sainteté.
इस समय अब बुढ़ौती आ गई है कुछ नहीं कर रहे हैं बाल बच्चे खिला रहे हैं खा रहे हैं
Je suis devenue vieille et je fais rien je suis en retraite et ce sont mes enfants qui me nourrissent
ये दुनिया से चले जाएं क्योंकि 85 वर्ष की उम्र हो गई है
J'ai 85 ans maintenant je veux quitter ce monde et moi j'y pense souvent
अब शरीर जो है बेदम की हो गई है कमजोर हो गए हैं बाल बच्चे इस जमाने में अब पहले की निगाह से नहीं देखते कुछ और किस्म से देखते हैं तो यह आत्मा कहता है कि कब यहाँ से छुटकारा हो जाए चले जाए फिर दूसरे जन्म में पता नहीं क्या होंगे क्या नहीं होंगे
Toutes mes facultés s'affaiblissent et je ne vais pas mieux, j'écoute pas mieux et mes enfants ne prennent pas beaucoup de soins. Donc maintenant, je veux quitter ce monde.
Et vous pensez qu'après, ce sera paisible, ce sera calme ?
Ab, mar jane par, yes, atma, parmatma mein chala jayega, ya sharir phuka jayegi masan mein. Aur kya hoga ?
Après la mort, mon âme rentrera chez le Dieu d'où il est sorti et mon corps sera brûlé. Donc moi ne serai plus, donc je ne sais rien.
Mais votre âme?
Ya atma hi jo hai, ya pran jo hai, yahi parmatma hai, yahi bol raha hai, aur wahi parmeshwar param pita bhi hai. Agar woh na rahe to ye na bole.
C'est moi qui est le Dieu, mon âme c'est le Dieu, c'est une partie du Dieu. Donc c'est pas moi qui parle, c'est le Dieu qui parle.
Pour nous, c'est très impressionnant de voir les corps brûlés comme ça. Vous, ça vous fait rien? Ça vous fait pas peur?
मरने में और जीने में अब क्या है? अपने से कोई अपना जान तो दे नहीं सकता। उसमें तो जरूर भय लगेगा, डर लगेगा। और उस तरह भगवान किसी बहाने उठा ले जाएंगे, तो उसमें डर क्या है?
Pour moi, il n'y a pas de différence entre la mort et la vie. Tout est égal.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage à Benares, Varanasi, dans une nouvelle version. La première version datait du 20 avril 1995, il y a 17 ans. Merci à toutes et à tous. Concernant la manifestation contre le G20, tout le programme de ces 4 jours de conférences et d'actions se trouve sur le site www.mobilisationg8g20.org. Mobilisation au pluriel. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, écrire des messages. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry, Bertrand Chompton et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch en personne attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Tout le monde connaît la rougeole, cette maladie très contagieuse qui donne des plaques rouges sur tout le corps.
Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'elle ne concerne pas que les enfants. Et surtout, qu'elle peut être grave.
Chez les 15-30 ans, elle conduit à l'hôpital dans 1 cas sur 3.
En France, on la croyait disparue. Et pourtant, la rougeole est de retour.
La seule protection, c'est la vaccination.
Si vous avez entre 15 et 30 ans, vérifiez vos carnets de santé. Parlez-en à votre médecin.
Plus d'informations sur info-rougeole.fr. C'était un message de l'INPES et du ministère chargé de la Santé.
France Inter, le Théâtre de la Ville et le Festival d'automne à Paris présentent Loulou de Frank Wedekind. Pour cette nouvelle création, une troupe mythique, le Berliner Ensemble. Un metteur en scène hors norme, Robert Wilson. Des chansons originales signées Lou Reed et dans le rôle-titre Angela Winkler. Un événement. Retrouvez Loulou du 4 au 13 novembre au Théâtre de la Ville, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À demain, 15h, pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Pas question de revenir en arrière. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont parlé au téléphone aujourd'hui et ils se disent déterminés à mettre en œuvre les décisions prises lors du sommet européen de Bruxelles la semaine dernière. La France et l'Allemagne souhaitent également qu'une feuille de route soit établie pour l'application de ces décisions. Et c'est donc la réponse cet après-midi du couple franco-allemand à l'annonce d'un référendum en Grèce sur le plan d'aide. Le chef de l'État et la chancelière allemande se retrouveront d'ailleurs demain à Cannes pour en parler avec leurs partenaires européens, le FMI et les autorités grecques. Mais avant cela, Nicolas Sarkozy doit réunir les ministres concernés dans une heure à l'Élysée. Une chose est sûre, la décision de la Grèce de consulter son peuple a été diversement appréciée aujourd'hui. Les places boursières ont toutes plongé, y compris Wall Street. Et en écho à la crise de la dette grecque et à 2 jours du G20 à Cannes, plusieurs milliers d'altermondialistes, de syndicats et de partis de gauche défilent actuellement dans les rues de Nice. Leur mot d'ordre, les peuples d'abord, pas la finance. Antoine Gignot, vous êtes dans le cortège, mais ce rassemblement n'a visiblement pas, vu de vos yeux, le succès espéré, Antoine, c'est ça ?
Oui, même si les retardataires arrivent par petits groupes, la place de l'âtre de Tassigny reste à moitié vide. À peine 3000 manifestants, selon les premières estimations. C'est peu, très peu, en comparaison des 7000 altermondialistes qui s'étaient réunis au Havre en 2005. Ils sont pourtant venus du monde entier pour manifester contre le sommet du G20. Sur la place, Hicham brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « La bourse, pas la vie ». Il est américain, il fait partie du mouvement des indignés de Wall Street et il a pris l'avion spécialement pour l'occasion. Il y a aussi des Grecs, des Espagnols, quelques Italiens qui tentent de reprendre les slogans en français, indigné, révolté, solidarité, voilà pour l'ambiance sonore. Côté décor, les tableaux aux inscriptions solidaires se mêlent à ceux de la FSU et au drapeau de la CGT, quelques maps mondes gonflables flottent au-dessus de la foule, au milieu d'emblèmes tibétains et de dessins de faucilles et de marteaux. Et puis il y a aussi des inscriptions faites à la craie dans les rues du centre-ville. Yann et Loïc ont dessiné des fleurs et écrit la phrase suivante, la paix sociale c'est fini, pas question pour autant d'appeler à la violence, les premiers manifestants sont à l'instant en train de quitter la place pour défiler dans le calme, dans la rue. Les mouvements de foule ne risquent d'ailleurs pas d'effrayer les forces de l'ordre. Pour l'instant, les 3000 policiers et gendarmes sont quasiment aussi nombreux que les manifestants. À Nice, sur la place de l'Âtre de Tassigny, Antoine Gignot, France Inter.
Les indignés de Londres, eux, vont devoir lever le camp. Les autorités britanniques leur donnent 48 heures aujourd'hui pour quitter le parvis de la cathédrale Saint-Paul en plein cœur de la City. Ils y campent depuis 2 semaines. Parmi les arguments avancés par les responsables de la cathédrale, la sécurité et l'hygiène. 52% des personnes qui vivent dans les zones urbaines sensibles en France sont issues de l'immigration. Le journal Le Monde publie aujourd'hui le rapport de l'Observatoire de ZUS. Dans le détail, on apprend par exemple que dans les zones urbaines sensibles de la région parisienne, le pourcentage de personnes issues de l'immigration population grimpe à 64%. Et toutes générations confondues, les Maghrébins sont les plus nombreux à y vivre. À l'inverse, les Asiatiques y sont minoritaires. Et selon le rapport également, le taux de chômage y est élevé, 19% pour les primo-arrivants et plus de 28% pour leurs descendants. Enfin, un accident de plongée sous-marine aujourd'hui au large de Porquerolles dans le Var. Une Allemande de 51 ans est morte après avoir effectué une plongée à une quarantaine de mètres de profondeur aujourd'hui. C'est le 14e accident de plongée en Méditerranée depuis le début de l'année. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les jours, à partir de 11h, les affranchis.
Public de feu, bonjour!
Isabelle Giordano.
Bon, vous avez jusqu'à midi et demi. On va peut-être pas le coincer
pour la
soir. Allez, je révise.
Demain, retrouvez Isabelle Giordano et toute l'équipe des Affranchis avec leurs invités, Omar Sy, François Cluzet, Bernard Zécry et Jean-Daniel Beauvallet.
J'adore ça qu'on me donne des conseils. J'adore.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la Maison de Radio France.
Non, restez.
Ou réservez vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page des Affranchis. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Et bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. En ce jour de Toussaint, Jean-Sébastien Bach, pourquoi pas? Oui, on sait que Bach s'est appuyé sur sa foi pour vivre et pour écrire. Bien sûr qu'il n'a pas écrit que de la musique religieuse, on va s'en rendre compte, vous le savez déjà. Mais enfin, on ne peut pas non plus gommer cette partie de lui-même, de sa formation, de son âme, tout simplement. Joli disque déjà entendu ici. Le pianiste, c'est Alexandre Tarot. Il joue avec les violons du roi, ensemble de musique baroque en général, et de musiciens sur instruments d'autrefois, ou en tout cas copies d'instruments d'autrefois, dirigés par Bernard Labadie. Voici un scintillant presto du concerto pour clavier et orchestre en fa mineur du grand Jean-Sébastien Bach. Thank you. Presto du concerto pour clavier et orchestre, ici un piano moderne tout simplement, en fa mineur, numéro de catalogue Jean-Sébastien Bach 1056, interprété par Alexandre Tarot avec les violons du roi, dirigé par Bernard Labadie. Un autre Bach maintenant, Johann Christoph, né en 1642, donc antérieur au grand Jean-Sébastien, un cousin. Et ce cousin, Jean-Sébastien Bach, le respectait profondément, puisqu'il a dit justement, il a utilisé ce mot, il a dit « ce fut un profond compositeur et quelqu'un qui, d'après les témoignages, improvisait facilement à 5 voix, et jamais moins de 5 voix ensemble. » Donc évidemment, il avait une forte connaissance de son art, c'est évident.